LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Je m'appelle Claude Laurius. J'ai 78 ans aujourd'hui. Mais je n'en avais que 24 en ce mois de décembre 1956, lorsque la veille de Noël, le Norcel, un phoquier puant, graisseux et inconfortable, nous déposa pour la première fois, mes camarades et moi, en Terre Adélie. 1000 kilomètres séparent le continent antarctique de la pointe de l'Amérique du Sud, 2500 de l'Australie, 4000 de l'Afrique. Après de longs jours en mer sur le vieux cargo, après avoir franchi les eaux rendues tumultueuses par la confrontation des vagues de l'Atlantique et les eaux froides du courant, qui, en contournant l'Antarctique, en marquent les véritables limites naturelles, nous ressentions un immense bonheur à mettre le pied sur ces côtes inhospitalières. Le contact de la glace, les colonies de phoques, d'oiseaux et de manchots, et même le vent glacé, était une sensation enivrante. Un soleil blafard baignait d'une frange rosée le plateau qui montait devant nous, infini, mystérieux, sans relief, la naissance du monde.
Dans les vestiges des anciens climats. Une série documentaire d'Aline Pénito, réalisée par Gilles Blanchard. Épisode 2, l'intuition glaçante de Claude Laurius. Cela commence par un son. Un son de glace de mer que j'ai enregistré au Groenland, il y a un long moment déjà, au moins une décennie. Et plus exactement, un son enregistré dans le fjord gelé d'Ilulissat. Un siècle plus tôt, ce fjord a rejeté l'iceberg qui a heurté le Titanic, à moins que ce ne soit l'inverse. La glace a depuis reculé de plusieurs kilomètres. Depuis, plus rien ne sonne pareil. Ces mots d'une anthropologue groenlandaise, Lene Kilsenholm, décomptent les infimes variations du mot neige qui remontent la nuit des temps de la langue inuit. Sur l'échelle des connaissances géologiques, cela fait peu de temps que les variations climatiques sont analysées par les scientifiques. On peine encore à entendre combien les données qu'ils compilent, rapport du GIEC après rapport du GIEC, sont alarmantes. Décennie après décennie, dans l'intimité de leur laboratoire, les climatologues sont tombés sur des données qui les ont bouleversées. Ils ont dû dans le même temps inventer une science des climats et tenter de porter à la connaissance de toutes et tous ce que nous ne voulons pas concevoir. Parmi celles et ceux qui ont été des premières aubes criantes de vérité sur l'évolution des gaz à effet de serre, Claude Laurius. Il restera sans doute l'un des scientifiques les plus aventuriers et intuitifs de sa génération. Il s'en est allé le 21 mars 2023, au lendemain du dernier rapport du GIEC, à l'âge de 91 ans. Avec ses compagnons de route, nous plongeons ici dans l'un de ses récits, voyage dans l'Anthropocène.
J'avais répondu à une petite annonce placardée à l'université. On recrutait de jeunes chercheurs pour des campagnes d'exploration. Pour ces campagnes, on enrôlait des gens résistants. Pour être sélectionné, j'envoyais donc une photo de moi en tenue de footballeur, équipe de France universitaire. À quoi cela tient de partir pour l'aventure? À une forfanterie? Au hasard? Je fus accepté. Et puis, entre une mission au Sahara et un travail d'explorateur dans les régions polaires, j'avais choisi, jeune géophysicien, les rigueurs extrêmes du continent blanc.
C'est vrai que c'est une belle histoire. Claude, il est né en 1932. Il fait des études de physique à Besançon. C'est un très bon footballeur, en fait. Il y a une tradition dans la famille. Son frère aîné a été gardien de... Alors, c'était une équipe célèbre à l'époque, du FC Sochaux. Et donc, Claude a été international universitaire.
Et son frère lui a dit, mais écoute, tu es doué, tu pourrais aussi devenir un footballeur professionnel. Et c'est en fait ce qu'il voulait devenir. Et c'est son père qui est allé le voir. Il était à Besançon encore à l'époque. C'était à la fin de ses études. Et puis, il lui a dit non. Tu as bien réussi tes études, je veux que tu termines tes études. Ensuite, tu verras si tu veux devenir footballeur, mais maintenant, tu termines tes études. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Je pense qu'il rêvait surtout de partir de chez lui, d'avoir une vie plus grand que la sienne. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir une vie plus grand que la sienne. Le football, c'est bien, la terre, c'est plus grand.
Aussi ne quittais-je Besançon et les monts du Jura, ni par sagesse, ni par devoir, mais avec l'envie de me frotter à la nature et à l'inconnu. Pour la science, nous n'avions aucune idée de ce que nous allions trouver. Et c'était sans doute le moindre de mes soucis. À l'époque, on ne connaissait pratiquement rien des glaces, des températures en ces lieux extrêmes, de la cartographie de ce continent. 12,5 millions de kilomètres carrés recouverts d'une couche de glace dont l'épaisseur moyenne atteint près de 2,5 kilomètres. Des montagnes presque infranchissables, des crevasses abyssales, des vents qui vous emportent et 6 mois par an, la nuit qui vous enveloppe. C'est sur la base de Vostok, au cœur de ce continent désertique, que les Russes enregistrèrent la température la plus basse jamais mesurée sur Terre. Moins 89,3 degrés Celsius.
1955, plusieurs nations au niveau mondial préparaient ce qu'on appelait l'année géophysique internationale. On allait étudier les interactions entre le Soleil et la Terre, comme on n'avait jamais fait jusqu'ici dans le domaine scientifique. Pourquoi ? Parce que c'était une époque où l'activité solaire était à son maximum.
Jérôme Chapelaz, géochimiste, glaciologue, paléoclimatologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ancien directeur de l'Institut Polaire Paul-Émile Victor.
Et parmi les objectifs, il s'agissait de se rendre sur le pôle magnétique, de manière à regarder les interactions Soleil-Terre, justement là où les lignes de champ du champ magnétique terrestre plongent à l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire le pôle magnétique. Et donc la France s'est lancée dans une opération de construction d'une nouvelle station de recherche, la station Dumont-Durville, qui a été construite en 1956, et par là même cherchait des jeunes volontaires scientifiques pour aller rejoindre cette expédition et aller s'installer là où on pensait qu'était localisé le pôle sud magnétique.
À l'époque, il faut le dire, personne ne savait où était l'Antarctique. Il n'y avait pas de carte, même pas de photos, radar, rien du tout de l'époque. Donc ils partaient vraiment dans l'inconnu.
Anne-Christine Clotu-Vogel, ancienne secrétaire générale de l'Académie suisse des sciences naturelles, présidente de nombreuses institutions pour le développement durable et social, compagne de Claude Lorius.
Et bien sûr, c'était ça qui a aussi beaucoup, beaucoup attiré Claude. Je vais en Antarctique, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Et donc, pour lui, c'était vraiment le summum de l'aventure, c'est partir à un endroit où on ne sait pas ce que c'est.
En cette fin d'année 1956, nous débarquions dans l'inconnu, sur les traces de tous les explorateurs qui pensèrent autrefois y trouver un nouvel Éden. Le premier qui mit pied sur ces terres, où nous étions maintenant, le 20 janvier 1840, s'appelait Dumont-Durville. Il planta là le drapeau de la France, ouvrit une bouteille de vin pour fêter l'occasion, et donna à la Terre Adélie le prénom de sa femme. Mais ce que ni Dumont d'Urville, ni James Ross, Ernest Shackleton, John Scott, Roald Amundsen, Jean-Baptiste Charcot ne savaient, et ce que nous ne savions pas non plus, c'est que l'Antarctique n'était pas un désert comme les autres, il était un balcon. Et sa vue sur le monde était imprenable. Notre connaissance des phénomènes géophysiques mondiaux allait ainsi faire d'énormes pas en avant.
À l'époque, la glaciologie n'existe pas. Donc, on envoie trois scientifiques, en fait, trois jeunes gars qui sont partants pour vivre ça.
Laurent Carpentier, journaliste au Monde, co-auteur avec Claude Lorius de Voyage dans l'Anthropocène.
Il est le premier homme avec deux camarades à hiberner pendant, c'est-à-dire à passer tout l'hiver, à 300 km des côtes en Antarctique. Il va faillir laisser sa peau, mais il faut avoir une sacrée résistance psychologique, morale. Il s'agit de juste sauver sa peau parce qu'on est à 300 km et que si ça commence à brûler, eh bien personne ne viendra vous sauver. Enfin, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, il manque mourir à un moment donné puisqu'ils ont failli être étouffés par les gaz oxydés. Donc, c'est une première et c'est une force historique. Il faut quand même rester enfermé et faire marcher quelques appareils. Donc, la météo, regarder la température qu'il fait.
C'est très difficile en fait, ils sont complètement isolés pendant 6 mois, ils n'ont aucun contact et il y a même des difficultés très très sérieuses à certains moments. Il n'y a plus du tout d'électricité par exemple, donc pas de moyen de se chauffer, donc il faut actionner l'éolienne en pédalant, je crois, c'est ça.
Claude, il est chargé notamment tous les jours de sortir, de prendre un peu de glace, de creuser un petit peu, de regarder quelle est la température de la glace. Bon, il descend peut-être à 2 mètres ou à 1 mètre, c'est tout. Enfin, il mesure, il regarde ce que fait la neige, il essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, son quotidien, c'est ça. Le quotidien, c'est se faire à manger, jouer un peu de guitare, jouer aux cartes avec les copains et aller faire le boulot, qui est de regarder comment ça fonctionne, cette glace. On est au balbutiement de ce qu'est la climatologie. Il est là au tout début.
Le résultat net, c'est quand même que naît une passion de l'Antarctique. Claude va être vraiment le pionnier au niveau de l'Antarctique avec une première question. Est-ce que cette relation entre température et composition de la glace existe aussi en Antarctique ?
Jean Jouzel, glaciologue, paléoclimatologue, figure emblématique de la lutte contre le réchauffement climatique, membre de l'Académie des sciences de France, d'Italie, d'Europe et des États-Unis, lauréat du prix Wettlesen, considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre.
Alors, Claude rentre de plein pied dans cette grande communauté internationale polaire. Un Danois, Willy Dansgaard, a commencé à travailler sur la possibilité de reconstituer les variations climatiques du passé à partir de l'analyse des glaces, leur analyse isotopique. La composition de la glace est liée à la température de formation des précipitations. Ça s'est établi au début des années 50 et la France, a établi cette base du Mont d'Urville. Les Soviétiques sont allés dans le point le plus difficile, le Vostok. D'autres pays, les Américains, il y a aussi beaucoup de contacts dans les années suivantes. Dans les années qui suivent, ce sont des raids que Claude effectue, y compris avec une équipe américaine, en ce qu'on appelle Terre de Victoria. Donc ce sont des zones immenses, complètement inexplorées.
Claude est ce qu'on appelle un polaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez attrapé, vous y êtes allé, vous attrapez ce virus qui fait que ça vous ramène systématiquement vers le nord. Il y a chez tous les polaires, et chez Claude en particulier, cette espèce de familiarité avec ces mondes désertiques, ces mondes lointains, comme s'il se sentait mieux quand il est là-haut, ou en bas, si on veut parler du nord et du sud, du pôle nord et du pôle sud. Puis, il est très jeune, à ce moment-là. C'est d'abord un aventurier, c'est d'abord un chercheur, c'est d'abord quelqu'un qui suit son chemin et qui est intéressé par le fait que ce chemin est en train de s'en rendre compte, amène quelque part. Donc, il va revenir systématiquement. Il va revenir pour son service militaire, il va travailler avec les Américains, parce qu'à un moment donné, il y a une expédition américaine qui l'embarque.
Et c'est comme ça que Claude Lorius, en 1959, donc très peu de temps après avoir terminé son hivernage dans cette fameuse petite station Charcot, a été appelé par les Américains pour participer à une expédition de reconnaissance d'un territoire inconnu en Antarctique que l'on appelait la Terre de Victoria. Et il est parti avec cette équipe d'Américains, et je crois qu'il y avait également un Néo-Zélandais avec eux, pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres dans un territoire complètement inconnu. Le travail de Claude consistant alors à collecter de la neige de surface. Et une fois que cette neige de surface, il l'avait collectée, il l'a ramenée en France pour regarder la composition de cette glace en ce qu'on appelle les isotopes, c'est-à-dire les atomes, différentes formes d'atomes qui constituent la matière glace. Et de la même façon, dans les trous de carottage qu'il effectuait le long de cette expédition, il mesurait la température.
Il y a deux façons de raconter cet épisode-là. L'aventurière d'abord. Le froid incroyable. Les sacs de couchage couverts du givre de nos respirations. Les pensées bloquées par le gel. 2500 km à travers l'Inlandsis, découvrant une chaîne de montagnes inexplorées. J'y ai gagné un mont Laureus dans les atlas américains. Faut dire qu'il n'y avait que l'embarras du choix. Je doute que jamais personne n'y mette les pieds. Et franchissant des champs de crevasses, dans lesquels les chenillards manquaient à tout moment de disparaître. Nous n'avions pas encore les satellites pour nous guider et explorer les territoires de là-haut. Je reverrai toujours le visage d'enfant de Tom, le mécanicien de la troupe, un peu crispé, lorsque, seul à bord d'un véhicule pendu au-dessus du vide, il ne comptait que sur la solidité de notre pontage fait avec des madriers placés sous les chenilles pour s'en sortir. Et puis, il y a la manière scientifique de raconter tout ça. Géodésie pour fournir les repères géographiques, mesure des altitudes, détermination des épaisseurs de glace par prospection gravimétrique et sismique, station glaciologique, données météorologiques. Jack et Franz installent leur géophone, placent une charge d'explosifs de quelques kilomètres au fond du trou où j'ai relevé la température. Après réglage de leur amplificateur, filtre et galvanomètre, ils enregistrent les ondes produites par l'explosion et réfléchies par le socle rocheux. Connaissant la vitesse, le temps de propagation donne l'épaisseur de la couche de glace. Au fur et à mesure de nos différentes haltes, les résultats varieront entre 2800 et 3300 mètres. Avec une altitude de la surface voisine de 2500 mètres, le socle rocheux en terre de Victoria est en dessous du niveau de la mer.
Quand il est revenu en France, donc il s'est accoquiné avec le commissariat à l'énergie atomique, qui à l'époque avait des outils, était quasiment le seul à avoir des outils qui consistent à casser les molécules ou les atomes pour regarder en fait leur proportion d'atomes lourds et d'atomes légers d'un même atome. Et il s'est appuyé sur cette capacité qu'avait le commissariat à l'énergie atomique pour regarder les proportions de l'atome lourd d'hydrogène, que l'on appelle le deutérium, qui comprend en fait un neutron dans son noyau, par rapport à l'atome d'hydrogène normal qui constitue la molécule d'eau. Et ce dont il a pu se rendre compte grâce à ses toutes premières mesures, c'est que quand il représentait cette proportion d'atomes lourds de deutérium par rapport au nombre d'atomes, je dirais, normaux d'hydrogène, cette proportion suivait linéairement la température à laquelle les flocons de neige étaient formés. Et donc il a révélé ce qu'on appelle aujourd'hui le thermomètre isotopique, c'est-à-dire qu'une capacité à remonter à la température dans le passé en regardant les proportions d'atomes lourds et d'atomes légers constituant la molécule d'eau formant la glace.
On n'avait pas du tout idée vraiment des variations des températures dans un site au cœur de l'Antarctique. On ne se soucie pas encore du risque de réchauffement climatique. Ça viendra plus tard, plutôt dans les années 60. Mais dans les années 50, il n'y a pas beaucoup de... on ne parle pas beaucoup de l'augmentation de l'effet de serre, même si ça a été la possibilité d'une influence des activités humaines sur notre climat a déjà été évoquée par Arrhenius au début du 20e. Parce qu'on brûlait du charbon, on augmentait les quantités de gaz carbonique. On sait déjà à cette époque-là que la vapeur d'eau, le gaz carbonique, sont des gaz à effet de serre. Et puis... on a essayé d'expliquer l'existence de cycles glaciaires-interglaciaires par des variations, disons, de la position de la Terre sur son orbite. C'est ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch, qui a été reprise ensuite par André Berger, par d'autres. Voilà, on se rend bien compte que la quantité d'énergie qu'on reçoit dans un endroit donné de la planète a varié au cours des âges, pas simplement le jour-nuit, été-hiver, ça on comprend bien, mais sur des échelles de temps plus longues. Mais il y a eu en fait deux écoles qui se sont opposées. Il y a certains qui pensaient que les moteurs des changements climatiques, c'était la combustion de l'atmosphère, et les autres, la théorie de Milankovitch. Ce qu'on va montrer, effectivement, c'est que ce sont les deux qui jouent ensemble cette musique des périodes glaciaires et interglaciaires.
Claude Laurius va revenir plusieurs fois et à chaque fois, il va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Ils vont commencer à faire des carottages, c'est-à-dire à creuser des trous en profondeur dans la neige pour essayer de voir si elle se comporte de façon différente à 50 cm, à 1 mètre, si elle a la même température, comment bouge la température, etc. etc. Donc il va apprendre le métier et il va faire apprendre au monde comme d'autres, parce qu'il n'est pas tout seul à faire non plus ça. Et il va retourner, puis petit à petit, je pense qu'il va passer en tout 6 ans en Antarctique, 6 ans par morceau, mais il va devenir le chef de la base que la France a installée en Antarctique, la base Charcot.
En 1965, Claude Laurius s'est engagé comme chef d'hivernage à la station française Dumont-d'Urville sur la côte antarctique. C'est-à-dire qu'il a passé 12-13 mois avec une petite équipe d'une vingtaine de personnes, coupées du reste du monde dans cette station. Et à cette occasion-là, il a conduit l'un des tout premiers carottages français dans les glaciers pour remonter de la matière première formée il y a longtemps et pour étudier son contenu. Donc ce carottage lui a permis d'extraire de la glace qui s'était formée il y a plusieurs milliers d'années. Et puis un soir, donc...
Claude aime bien le whisky, Claude est un bon vivant, Claude aime chanter, Claude aime vivre, et c'est ce qui fait toute sa force, qui fera sa force d'ailleurs à Charcot, qui fait sa force quand on se balade au Groenland, qui fait sa force quand on le retrouve à Paris, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours pris la vie du bon côté et qui sait emmener une équipe avec lui. C'est un meneur d'équipe avant toute chose.
Ben, c'est la fameuse histoire du whisky, un soir fatigué par les carottages. Comme d'habitude, on prend un verre de whisky tous les soirs. Hein. Du reste, quand vous voyez des photos des cabanes de l'époque, il y a toujours une bouteille de whisky quelque part. Et donc, c'est une tradition. Il y avait Bill Budd, qui était là, l'Australien, qui était devenu aussi déjà aussi un ami de Claude. Et là, et ben voilà, il prend de la glace qu'ils avaient forée, donc en fait quelque chose qui n'était pas tout à fait permis, mais enfin quand même, un reste de glace, et il le met dans son verre de whisky.
Il faut bien comprendre que dans ces échantillons de glace, la pression augmente à mesure que, bien sûr, il y a de la masse de glace dessus, et donc en profondeur, eh bien, il y a eu vraiment des pressions très fortes par rapport à ces petites bulles d'air qui sont vraiment compressées, et puis quand la glace eh bien, fond, eh bien, ces bulles d'air éclatent.
Et à ce moment-là, il y a le pépitement de la glace qui fond dans le whisky, et il voit ces bulles d'air, et il dit « Ah !»
C'est dommage, si on savait ce que contiennent ces bulles d'air, si on pouvait analyser le contenu de ces bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace, on pourrait savoir de quelle nature était fait le climat il y a 5000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans. Et l'idée reste comme ça en l'air, mais l'idée est là, et c'est de là que va venir toutes les analyses du climat passé, c'est de l'analyse du contenu de ces bulles d'air qui sont emprisonnées dans les glaces.
Qu'est-ce qui fait que les anecdotes comme celle-ci restent célèbres? C'est qu'elles racontent ce moment inattendu de l'intuition. Le fait est que ce verre de whisky va désormais nous guider dans la recherche. Ces bulles de gaz que renferme mon glaçon, emprisonné dans le glacier depuis des dizaines de milliers d'années, vont se révéler les témoins de l'atmosphère du passé. Mais qui s'inquiète de l'atmosphère du passé en 1965? Qui s'inquiète de l'atmosphère tout court? À part quelques chercheurs travaillant directement sur ce domaine ou quelques esprits écologistes éclairés. Pour nous, la composition de l'atmosphère est à l'époque une préoccupation bien moins importante que la température du passé dont nous voulions percer le secret. Et puis, à ce moment-là, nous n'avions aucun moyen technique pour extraire l'air emprisonné et l'analyser. Ce n'était qu'une idée en l'air. mais elle trotta longtemps dans nos têtes. En fait, il nous faudra attendre plus de 20 ans pour que cette intuition débouche sur une réalité avec les campagnes de forage profond.
Fort de cette expérience, quand il est revenu en France, il a fondé un laboratoire à Paris, sur une péniche, sur la Seine, de manière à poursuivre ses travaux, à la fois sur les isotopes de l'eau, mais aussi sur d'autres traceurs, d'autres éléments présents dans la glace, dont il percevait qu'il y aurait beaucoup à tirer.
Claude fait sa thèse sur l'analyse de la composition de la glace isotopique, mais il n'a pas de labo. Donc il a quelques personnes qui travaillent avec lui sur une péniche et il amène ses échantillons de neige dans un laboratoire de Saclay où, disons, moi j'arrive, jeune thésard, j'arrive en octobre 68.
Jean Jouzel.
Pour mieux comprendre la formation de la grêle, et Claude amène ses échantillons. Et là, la première fois que je le rencontre, c'est vraiment début 69, c'est-à-dire qu'il revient de mission. Et puis c'est vrai qu'on a rapidement sympathisé, parce que moi-même je suis footballeur, et puis à la fin de ma thèse, Claude me dit « tu devrais faire de la glaciologie ». Alors lui-même va à Grenoble au début des années 70 pour créer une équipe de glaciologie polaire qui n'existait pas. Il y avait de la glaciologie alpine. Il m'invite à y aller, mais je dis « je veux bien faire de la glaciologie, mais je préfère rester à Saclay », ce que j'ai toujours fait. Tout s'est bien passé parce qu'on avait aussi ces techniques d'analyse à Saclay qui étaient importantes, et j'y suis resté, bien sûr.
Claude Lorius a toujours eu un rêve, c'était d'accéder à de la glace très ancienne, formée en Antarctique, pour pouvoir reconstituer tous les paramètres qu'il voulait mesurer.
Jérôme Chapelaz.
À l'époque, la France n'était pas très bien armée, dans les années 70, pour obtenir ce type de matière. Et donc, il allait chercher de l'appui à l'étranger. Claude Lorius était un très fin négociateur, était une personne avec un grand charisme et qui savait entretenir des amitiés. Et pas du tout d'une manière superficielle. Et il a pu s'appuyer sur ses amitiés à des moments critiques. Et il s'est notamment appuyé sur ses amitiés avec les Soviétiques. Il s'était noué d'amitié très forte avec Narcisse Barkov et Vladimir Kotliakov, qui étaient tous les deux des chercheurs à Saint-Pétersbourg. Narcisse Barkov ayant débuté un carottage à la station soviétique Vostok, située à environ 600 km de la station Concordia. Et il a pu se rendre à la station Vostok pendant l'été austral 1984-1985 avec deux collègues de Grenoble, transportés par un de ses amis, qui était responsable de la logistique américaine en Antarctique, ayant fait en sorte qu'un avion américain soit mis à sa disposition pour l'emmener dans la station soviétique, en pleine guerre froide.
C'est une belle histoire, parce que Claude, au fond, toute sa vie, il le dit lui-même, du reste, il le répétait à l'envi, l'amitié a joué un rôle, très grand rôle. Donc il a vraiment toujours laissé derrière lui, si je peux dire, des amis. Hein. Beaucoup d'amis aussi, parce que il était joli garçon. Je crois qu'il avait ça naturellement en lui. Il avait besoin aussi probablement de sentir cette chaleur de l'amitié et cette confiance qu'on a les uns avec les autres grâce à l'amitié.
Anne-Christine Clotu-Vogel.
Avec Volodya Kotliakov, il y avait des liens qui étaient plus encore que des liens scientifiques, si je vous dis, ou d'explorateurs ou de chercheurs. Assez rapidement, cette amitié s'est transformée en expédition antarctique. Claude était au Domsé, donc ce plateau antarctique où se trouve aujourd'hui la station Concordia. Donc il faisait ses premiers carottages profonds et il avait comme carotteur un Russe, Barkov, avec qui il s'entendait très très bien du reste. Les Russes étaient d'excellents carotteurs. Et c'est là où Barkov lui dit « Mais écoute, moi, il y a un avion américain ici, si tu veux, on peut vite faire un saut. » Mais c'était vraiment ça, hein, faire un saut à Vostok, aller-retour le même jour. Inutile de dire que Claude, qui n'avait pas été à Vostok, a tout de suite accepté. Et ils sont partis là-bas avec Willy Dansgaard, qui était aussi un grand scientifique, même à l'époque un scientifique plus connu encore que Claude. Ils sont allés donc là à Vostok, et c'est là où Claude a découvert les carottes de glace dans les dépôts de Vostok, Et inutile de dire que immédiatement il a fait le lien. On s'est dit, oh, mais ils ont des glaces. Puis après, il a déchiffré les dates qui étaient marquées sur ces carottes de glace et il voyait toujours plus profond. Tout. Donc c'était pour lui le paradis, quoi, le paradis des carottes. Alors que Damsgaard, lui, il allait faire des petits échantillonnages sur la glace à l'extérieur. Il n'a pas du tout réalisé ce qu'il y avait comme trésor à Vostok.
Et les Soviétiques ont accumulé ainsi un trésor de guerre, en quelque sorte, puisque au tournant des années 80, ils avaient atteint plus de 2000 mètres de profondeur dans le glacier, remontant de la glace qui s'était formée il y a 150 000 ans. Et c'était un trésor. Aucune autre nation ne disposait d'une glace aussi ancienne à l'époque.
Volodya Kokakov avait fait carrière, si je peux dire, une carrière scientifique, mais aussi de politique de la science en Russie. Et donc, Claude a négocié, en quelque sorte, avec lui, que les Français puissent prendre les carottes en France. Et donc, comme c'était la guerre froide de l'époque, ben c'était bien un arrangement, je dirais, entre amis. Mais il fallait aussi qu'au point de vue politique, ce soit accepté. Et ça a été accepté au plus haut niveau.
Ceux qui avaient des avions qui étaient capables d'y aller, c'était les Américains. Claude était copain avec les Américains.
Laurent Carpentier.
Ceux qui étaient capables d'analyser l'air, c'était les Français, avec Jean Jouzel. Et donc Claude va organiser avec ses camarades américains des avions qui vont aller chercher les carottes russes. C'est quand même assez extraordinaire de penser ça, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont aller chercher avec les avions américains les carottes russes pour les amener aux Français qui vont les analyser.
La Terre est un tout. Nous n'avons qu'une terre, qu'une atmosphère. Les eaux profondes formées dans l'océan austral se retrouvent dans les hautes latitudes nord. De grands oiseaux migrateurs volent d'un pôle à l'autre. Et dans un hémisphère sud, principalement occupé par les eaux océaniques, l'Antarctique est une maille essentielle de compréhension du système Terre.
La période actuelle, c'est les 12 000 dernières années, le climat à peu près d'aujourd'hui. Le dernier maximum glaciaire, c'est il y a 20 000 ans. La précédente période chaude, c'est il y a à peu près 120-130 000 ans. Et puis la précédente période glaciaire, l'avant-dernière période glaciaire, on est à 150-160 000 ans. Et là, c'est la première fois qu'on a des échantillons accessibles sur l'ensemble d'un cycle climatique. C'est une chance, on a l'ensemble de cette période. De notre côté, nous analysons la composition de la glace, c'est-à-dire que notre laboratoire, notre équipe de Saclay fournit, je dirais, des enregistrements de température. Et c'est aussi à ce moment-là que mes collègues, alors d'abord Robert Delmas et aussi Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola, sont aussi les premiers à analyser les teneurs en CO2. On va avoir les variations de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère sur 150 000 ans. Et cela, c'est vraiment, je crois, le point le plus marquant, l'aspect le plus marquant de ce carottage de Vostok.
Il regarde les courbes des températures qui remontent là, pour le coup, on remonte très très loin dans le temps. Et puis, il regarde le contenu des bulles d'air. Et là, ils mettent par hasard les deux courbes l'une à côté de l'autre. Ils ne savent pas du tout, ils ne cherchent pas quelque chose. Et ils se rendent compte quoi ? Qu'elles sont complètement parallèles. C'est-à-dire que dans la courbe où on voit qu'il y a plus ou moins de gaz carbonique, en fonction de la pourcentage de gaz à effet de serre qui sont dedans, on se rend compte que c'est parallèle à la courbe de la température.
Moi, je suis arrivé juste, je dirais, au tournant de cette histoire. J'ai commencé mon travail au laboratoire de glaciologie en 1986, sous la direction de Dominique Reynaud. Dominique Reynaud m'a proposé de mettre au point une méthode permettant de reconstituer l'évolution d'un autre gaz à effet de serre que le gaz carbonique, qui est le méthane. Et en même temps, la fameuse carotte de Vostok venait d'arriver, était dans les congélateurs, et il fallait la faire parler. J'ai travaillé sur cette fabuleuse, légendaire carotte de Vostok. Donc tous les jours, j'allais au congélateur chercher les précieux échantillons. J'en extrayais 40 à 50 grammes de glace, que je manipulais avec beaucoup de précautions pour faire en sorte d'extraire le contenu des petites bulles et ensuite regarder la quantité de méthane présente dans ces petites bulles. Et il a fallu pratiquement, oui, je dirais 2 ans de travail pour arriver à la courbe montrant l'évolution du méthane sur 150 000 ans grâce aux carottes de Vostok. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc on représentait ça sur du papier millimétré. Et puis, pratiquement chaque semaine, on se réunissait, on trouvait Claude dans son bureau, et puis on montrait les nouveaux résultats. Et jusqu'au moment où il nous a lâché, je ne me souviens plus quel jour, cette expression « ça va faire mal ». Parce qu'effectivement, il avait réalisé qu'il avait mis la main sur un Graal scientifique, véritablement.
Et ça a fait mal, oui. Et ça leur a fait mal. Et après, c'est toujours la question, quand vous voulez communiquer, vous êtes lanceur d'alerte, comment ne pas tomber dans le catastrophisme ? Ça, c'est le gros problème. Il y aura vraiment des catastrophes si on ne fait rien. Mais comment le dire, l'exprimer, sans que ça bloque tout le monde, ou alors au contraire, qu'on se bouche les yeux, puis on dira, c'est les enfants qui se débrouilleront. Parce que c'est ce qu'on entend trop, trop souvent, hélas. Oui.
Trois lignes interminables courant dans la nuit des temps de façon parfaitement parallèle. Elles parcourent pendant 160 000 ans les chauds et froids de la planète dans sa balade autour du Soleil. D'un côté la température, de l'autre le dioxyde de carbone et enfin le méthane. C'est tout un cycle climatique qui se dévoile à nos yeux avec des oscillations d'une demi-douzaine de degrés entre les âges glaciaires et interglaciaires. Sur les 10 derniers millénaires, depuis le début de l'Holocène, époque géologique à laquelle nous appartenons encore officiellement, les voici qui semblent quasiment étales tant le climat est d'une grande stabilité avec de très faibles variations. Et puis, de façon inopinée, sur une toute petite période de 200 ans, qui démarre approximativement au milieu du 19e siècle, le siècle des découvertes et des inventions, des sciences et des techniques, de Pasteur et d'Edison, de Darwin, de Mendel, de Ricardo, de Marx, ces jours heureux où l'homme occidental s'émancipe des saisons, de l'obscurantisme et des royautés, voici que d'un seul coup, les trois courbes se mettent à grimper de façon exponentielle en une ahurissante envolée.
Les recherches de Vostok, c'était donc en 1984 que les carottes ont été ramenées en France. En 86, il y avait déjà des premiers résultats qui étaient connus dans les milieux, j'y dirais, internes scientifiques. Ça circulait entre eux. Et puis, c'est à ce moment-là aussi où Claude a dit à Jean, « Moi, j'ai creusé, toi, tu écris. » Ils ont présenté trois articles à Nature en pensant que l'un ou l'autre paraîtrait. Et le grand étonnement, c'est que les trois ont paru dans le même numéro. Et ça, c'était un coup de foudre, quoi. C'était jamais arrivé auparavant.
Claude, avec Jean Jouzel, son ami depuis les années 70, qui travaillait sur les isotopes de l'eau, a réussi à convaincre la revue prestigieuse Nature d'accepter trois articles. C'est très rare, c'est exceptionnel que Nature publie trois articles sur un même sujet, qui ont été publiés en octobre 1987, avec la couverture de la revue montrant la station Vostok. Et ces trois articles, ils représentaient une forme de révolution dans le monde de la paléoclimatologie, puisque le premier montrait l'évolution détaillée de la température en Antarctique sur 150 000 ans, grâce au carottage de Vostok, avec une datation qui était indépendante de ce qu'on appelle le métronome astronomique. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient sur les sédiments marins avaient remarqué qu'il y avait des cyclicités dans le climat terrestre, avec des périodes de changement climatique tous les 20 000 ans, tous les 40 000 ans, tous les 100 000 ans, et ils dataient leurs sédiments marins en calant leurs signaux sur ce qu'ils attendaient justement de ce pacemaker astronomique. Or, la beauté de ce premier article, une des beautés de ce premier article, c'était de montrer l'évolution de la température sur une datation obtenue sans se caler sur les paramètres orbitaux de la Terre. Et il démontrait, indépendamment, que l'évolution du climat en Antarctique était intimement liée justement à ces paramètres orbitaux. C'était la première démonstration indépendante. Le deuxième article, un effet absolument extraordinaire, comparait l'évolution de la température en Antarctique avec la quantité de gaz carbonique présente dans l'atmosphère. C'était la première fois qu'on reconstituait la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère sur 150 000 ans, c'est-à-dire sur la succession d'une période chaude, d'une glaciation, d'une autre période chaude auparavant et de la fin d'une glaciation encore avant. C'était véritablement, je dirais, une bombe scientifique. Et le troisième article calculait en fait les liens entre les deux signaux et l'importance relative des paramètres orbitaux, donc de l'orbite de la Terre autour du Soleil, et du gaz carbonique dans cette évolution climatique.
C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on met en évidence, de façon très claire, un lien entre effet de serre et climat sur notre planète. En fait, à cette époque-là, quand on parlait de l'effet de serre, on abordait ça d'une façon un peu théorique, mais c'est autre chose que de montrer des courbes, en particulier pour des décideurs politiques. Deuxième information, c'est que sur la période actuelle, ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'on est déjà 20% au-dessus du niveau le plus élevé qu'on ait eu. Donc ça montre de façon irréfutable que cette augmentation du gaz carbonique qu'on observait, qui était suivie, disons les premiers travaux, ces Keeling aussi qui commencent au moment de l'année géophysique internationale, eh bien était d'origine humaine.
Donc ça a été un véritable choc et je pense que là encore, l'intelligence politique est... Le charisme de Lorius a beaucoup servi à faire en sorte que ces résultats percolent ensuite très rapidement dans la société. Il en a informé très vite le climatologue américain Jim Hansen, qui était à l'époque le patron d'un laboratoire de la NASA à New York, et un très grand climatologue qui travaillait sur les modèles de climat. Et il se trouve qu'en 1988, donc quelques mois après la publication de ces trois articles dans Nature, Jim Hansen a été convoqué par le Congrès américain pour parler de l'évolution du climat en juin 1988, alors que les États-Unis étaient en train de souffrir d'une vague de chaleur extrême et se demandaient justement ce qui se passait. Et Jim Hansen a profité de cette audition par le Congrès américain pour parler des résultats de Vostok. Donc ça a été, je dirais, la première fois que ces résultats ont atteint le niveau politique, le plus haut niveau politique. Et ça a probablement contribué à asseoir la création même du GIEC, c'est-à-dire le groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, qui a été mis en place entre 1988 et 1990. Claude Lorius était doué d'une très grande amitié avec Paul-Émile Victor, et je pense que tous les deux avaient une certaine idée de la France, c'est-à-dire qu'ils étaient conscients de la capacité qu'avait la France pour conduire de la recherche très performante dans les régions polaires, mais qu'il lui fallait des moyens. Paul-Émile Victor et Claude Lorius étaient convaincus qu'il fallait institutionnaliser cela, faire en sorte que la France se dote d'un opérateur capable de soutenir la recherche au pôle au pluriel, Antarctique comme Arctique, au bénéfice de l'ensemble des sujets scientifiques. Et ils ont en fait trouvé une bonne oreille à ce propos-là avec le Premier ministre Michel Rocard. Il se trouve que Michel Rocard, Premier ministre en 1988, a rencontré en visite d'État Robert Hawke, qui était le Premier ministre d'Australie. Et Robert Hawke s'est adressé à Michel Rocard en lui demandant son aide, en lui disant « Écoute, Michel, j'ai un problème en Antarctique. » Michel Rocard, c'est quoi l'Antarctique ? Ben écoute, c'est un lieu qui est au sud de l'Australie, au sein duquel je suis en train de m'embrouiller avec mon grand voisin, la Nouvelle-Zélande. En fait, il se trouve qu'il y avait la convention de Wellington qui avait été proposée par la Nouvelle-Zélande qui allait autoriser l'exploitation minière et pétrolière en Antarctique. L'Australie ne voulait pas en entendre parler, donc il fallait un allié, et l'allié c'était la France. Et donc Michel Rocard s'est passionné pour le sujet. Il a eu le flair d'envoyer Jacques-Yves Cousteau aux États-Unis, qui à l'époque était un personnage extraordinairement reconnu aux États-Unis, de manière à ce qu'il fasse le tour des sénateurs américains et qu'il les convainque qu'il fallait faire en sorte d'éviter que cette convention de Wellington soit mise en place et protéger l'Antarctique sur le plan environnemental. Il y est arrivé, donc ça a été le protocole de Madrid en 1991, co-soutenu par Michel Rocard et par Robert Hawke, tous les deux premiers ministres. Et en parallèle, avec cette prise de conscience qu'a eu Michel Rocard, Paul-Émile Victor et Claude Lorius ont pu le convaincre qu'il fallait aussi que la France se dote d'un opérateur au service de la science, dans la durée, piloté par l'État. Et c'est devenu l'Institut polaire français.
Travailler sur l'échelle des temps, c'est réécrire l'histoire. Deux défis se posent à ceux qui s'y frottent. déterminer d'une part en quoi une époque est différente d'une autre, en quoi elle existe. Fixer d'autre part un début et une fin à ces périodes dans les siècles des siècles. Pour cela, les stratigraphes vont choisir soit d'adopter arbitrairement une date, un chiffre précis, longtemps l'Holocène fut fixé à 10 000 ans avant d'être aujourd'hui déplacé de 1500 en arrière, ou bien ils choisiront, ce qui est préférable, un marqueur visible à l'œil nu dans les roches et les sédiments, comme l'extinction des dinosaures dont on a retrouvé les squelettes fossilisés, ou un réchauffement traçable dans les sols par la découverte de graines de quelques espèces végétales. Il eût ainsi été naturel de choisir, pour marquer le début de l'Anthropocène, les marqueurs de CO2 tels qu'ils étaient visibles dans les glaces. Mais la courbe pour marquer un décrochage dans la deuxième partie du XXe siècle est néanmoins progressive et sa hausse est déjà sensible un demi-siècle plus tôt. Quelle année choisir? Quel est le palier? C'est en lisant les courbes comparées des températures et des gaz à effet de serre, telles que nous les avions relevées en Antarctique, que le biologiste américain Eugene Sturmer et le géochimiste néerlandais Paul Crutzen publièrent pour la première fois en 2000, dans la newsletter de l'IGBP, International Geosphere Biosphere Programme, un article évoquant cette nouvelle situation comme étant une ère géologique entièrement nouvelle qu'il proposait d'appeler « Anthropocène ». Ainsi, Paul Crutzen, géochimiste néerlandais, proposa-t-il de prendre comme date de départ 1784. Cette année-là, au Royaume-Uni, James Watt avait inventé la machine à vapeur moderne et signé ainsi le point de départ de l'utilisation à grande échelle des énergies fossiles et l'éclosion des émissions de gaz à effet de serre.
Claude Lorius a effectivement estimé assez tôt qu'il était important que la France joue pleinement son rôle dans ce contexte-là et s'est tourné vers Jean Jouzel de manière à ce que, à travers le GIEC, la France puisse peser avec cette voie à l'interface entre la science et la politique. Le fait d'avoir mis Jean Jouzel au sein du GIEC a contribué à faire en sorte que la complexité du système climatique soit prise en compte dans toutes ses dimensions à travers les rapports du GIEC. Et que la recherche intègre cette complexité autant que faire se peut.
Pour le second rapport du GIEC, je suis impliqué dans le premier groupe sur les aspects scientifiques. Je participe à la séance d'adoption, on est à Madrid. Et effectivement, c'est une autre découverte qu'on met en avant. C'est la découverte des événements climatiques rapides. Ça vient des glaces du Groenland. Et moi, j'ai effectivement été au Groenland en 91-92. Donc, de nouveau, avec ce Willy Dansgaard qui a joué un rôle important. Et donc, on montre vraiment des variations très rapides du climat. Ce n'était pas du tout envisagé. Et avec des réchauffements qui peuvent survenir de plus de 10 degrés et qui peuvent survenir en quelques années. Et puis, des refroidissements un peu plus lents et toutes les questions qui se posent à l'époque. Et effectivement, lors de cette adoption, je propose de parler de surprises climatiques. Et ça, c'est je me souviens, et j'ai eu le soutien à l'époque d'un Américain qui était Steve Schneider, qui dit « Oui, il faut prendre ça ». Et effectivement, le terme de surprise climatique est repris dans ce second rapport du GIEC.
Au tournant des années 80, années 90, on a établi le constat. On a porté ce constat auprès des décideurs politiques. Ensuite, je dirais que les années 90 et 2000, ça a été des années où il a fallu lutter contre le doute. On a quand même eu une vague de climato-scepticisme extrêmement importante, qui en France a notamment été portée par Claude Allègre, ancien directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris, et qui ont eu, des conséquences dramatiques, dans le sens où ça a retardé de manière considérable la prise de conscience et l'entrée dans l'action. Et c'était dur. Claude Lorius, d'ailleurs, lui-même l'a très très mal vécu. Il a été pris à partie en tant qu'académicien par Claude Allègre au sein même de l'Académie des sciences, mais de manière personnelle, vraiment des attaques ad hominem qui l'ont détruit. C'était une façon d'infantiliser, je dirais, les chercheurs qui travaillaient sur le climat en disant « c'est trop complexe, le climat il a toujours changé, etc. » Et ça a fait beaucoup de mal.
Claude a été nommé à l'Académie malgré Claude Allègre. Ben, Claude Allègre a quand même pas mal d'influence, puisque par exemple Jean Jouzel, il a fallu attendre très longtemps pour qu'il puisse entrer à l'Académie, alors qu'il aurait bien mérité d'y entrer bien plus tôt. Hein. Mais ça, c'était de nouveau. Et donc, l'équipe à l'époque qui a suivi Allègre, Courtillot, ben, ma foi, ils ont dû quand même céder la place, ou une place, disons, aussi à des climatologues de haut niveau, hein, de haut niveau, bien sûr. Le problème avec Allègre, c'est qu'il a utilisé sa plateforme politique pour encourager le climato-scepticisme, ça c'est sûr. Ouais.
Je n'ai précisément ni produit miracle, ni répare réchauffement, ni stop anthropocène. Je ressens juste l'impérieuse nécessité de ne pas baisser les bras, de ne pas refuser de chercher, d'aller là où on ne sait pas, de croire au sursaut plutôt qu'au sursis. Au fil des années, j'ai réalisé que ce qui pouvait le plus bousculer la donne dans la vie, c'était l'amitié. Celle qui se fonde sur une solidarité et le partage des aspirations communes. Tous les aventuriers le savent. Sur le terrain, face au danger, face à la vérité des chiffres et des relevés, face à la nature, nous-mêmes, ici, les égaux s'estompent, les conflits s'effacent.
J'ai beaucoup échangé avec Claude tout au long de sa carrière, depuis 69, et en particulier sur ces aspects, c'est-à-dire de montrer qu'il faut absolument qu'à horizon 2020, eh bien, les émissions commencent à descendre. On a longtemps dit ça, et c'est vrai, mais elles continuent à augmenter malheureusement. Mais maintenant, on ne dit plus ça. Maintenant, on dit c'est maintenant qu'il faut que les émissions descendent. Et on sait que pour avoir des chances de rester autour d'un degré 5, il faudra les diviser par deux d'ici 2030 par rapport à ce vers quoi nous allons. Et on voit bien la difficulté. Il ne faut pas baisser les bras, mais il ne faut pas non plus être naïf et redire ce que dit très bien Valérie Masson-Delmotte. Un dixième de degré, ça compte. Le réchauffement est là et il va continuer, il va se poursuivre. Et ce sera très difficile de rester déjà bien en deçà des deux degrés. Ce serait déjà merveilleux. On les dépassera, mais si ce n'était que temporaire, ce serait merveilleux si nous étions en deçà de deux degrés dans la deuxième partie de ce siècle, je crois. Mais c'est indispensable aussi pour... pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est bien cela quand même.
Claude a magnifiquement réussi cette symbiose entre la notion d'être de passage et puis d'avoir un passage utile. Quand on travaille sur les climats du passé, on travaille sur des échelles de temps qui représentent des milliers ou des centaines de milliers d'années. Et donc on voit les processus se mettre à l'œuvre siècle après siècle, millénaire après millénaire, parce qu'on connaît, je dirais, la complexité du système, et notamment nous avons la perception de l'inertie monstrueuse du changement climatique. Et nous, à notre échelle de société, on est sur un siècle, deux siècles, et quand on voit les bouleversements qui ont été introduits en un siècle, deux siècles, et qu'on les compare aux échelles de temps sur lesquelles on a l'habitude de travailler, on se dit, mais c'est pas possible. On a effectivement mis dans le système climatique aujourd'hui une espèce de bombe. Et on a une forme d'angoisse dans le sens où on perçoit un certain nombre de mécanismes qui peuvent se mettre en place conduisant à des amplifications du changement climatique. Mais il y en a probablement qui nous sont passés à côté pour l'instant. Donc on n'a pas encore totalement réalisé la gravité.
Selon le dernier rapport du GIEC 2023, la teneur en CO2 dans l'atmosphère est passée de 280 parties par million en 1750, au début de la révolution industrielle et de l'exploitation massive du charbon, à 410 parties par million en 2019. Elle n'avait jamais dépassé les 300 parties par million depuis 800 000 ans. Le dioxyde de carbone, le CO2 dans l'atmosphère, a augmenté de 47%. Le méthane, puissant gaz à effet de serre, de 156%. Le protoxyde d'azote, de 23%. Ces niveaux sont sans précédent depuis au moins 2 millions d'années et leur augmentation depuis 1750 est 4 à 5 fois plus rapide que durant les 56 derniers millions d'années. les émissions de gaz à effet de serre, pour l'essentiel, sont dues à l'usage massif du charbon, du gaz et du pétrole.
J'ai coutume d'utiliser l'analogie, le syndrome du Titanic. C'est-à-dire que je pense que les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique sont un peu dans la situation de la vigie en haut du navire qui a vu l'iceberg et qui est en train d'alerter le poste de commandement qu'il va falloir faire quelque chose. Et l'iceberg, c'est le mur. L'iceberg, c'est le mur. Et le commandement, il est peut-être encore en train de discuter avec les gens dans la salle de bal qui se demandent quelle musique on va mettre dans la salle de bal pour la prochaine danse. Ben, l'enjeu, il n'est plus de se bagarrer sur la prochaine danse dans la salle de bal. Il est de venir tous au poste de commandement pour tout mettre en œuvre de manière à ce que la trajectoire du navire change. Et plus on attend, plus l'iceberg, on va le frôler, plus on va le taper, plus on va se fracasser dessus. C'est aussi simple que ça, la notion de mur.
À la station Charcot en Antarctique, la vue se perdait dans un désert de glace. Un non-lieu. Mais en étudiant ces terres déshéritées et inhospitalières, nous avons découvert qu'elles étaient une clé de voûte. Je vais vous raconter une histoire. À Charcot, en 1957, au bout de 10 mois d'hivernage, le soleil a repris sa course au-dessus des glaces, lorsqu'un matin, un oiseau venu du bout du monde se posa sur le grand mât de mesure que nous avions réussi à remettre sur pied. Un pétrel des neiges. Il n'annonçait aucune bonne nouvelle, il n'était porteur d'aucun message, d'aucune information sur l'avenir. Il était juste là. Il était perdu. Il était la vie dans ce grand désert silencieux. Il resta quelques jours, puis il disparut. Ce que dit peut-être cette parabole, c'est que rien n'est écrit. Et cela devrait suffire à nous rendre heureux. On croit savoir, on découvre sans fin. On croit apprendre, il y a tant de choses à côté desquelles nous passons. Aujourd'hui, même s'il y a tant de variables à prendre en compte quand on construit un modèle scientifique, même si personne n'est en mesure de certifier à 100% à quoi demain ressemblera, ni quand ce basculement aura lieu, nous savons juste que cette bascule viendra inévitablement. J'ai monté du whisky, pur malt. Pas le meilleur, mais j'ai encore dans mon congèle des glaçons du glacier, spécial 100 000 ans d'âge. À la santé du vieux monde. Qu'il en ait un meilleur. Parce que si j'accepte d'être une virgule sur le fil du temps, crois bien que je refuse d'en être le point final.
Cela finit par un son enregistré au laboratoire des géosciences de l'environnement de Grenoble. Laboratoire fondé par Claude Lorius. De l'air s'échappe d'une carotte de glace très ancienne. Ces bulles d'air que l'on écoute ont 100 000 ans. C'était dans les vestiges des anciens climats, épisode 2. L'intuition glaçante de Claude Lorius. Avec Jean Jouzel, Laurent Carpentier, Anne-Christine Clotu-Vogel, Jérôme Chapelaz. Lecture, Hervé Pierre. Prise de son, Delphine Baudet. Stagiaire, Myriad Izard. Mixage, Antoine Viossa. Merci à Grégory Test. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran et Johanna Bedeau. À suivre, épisode 3, Lire les tréfonds des océans.